Pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. Quand au début des années 60, les prix mondiaux des céréales sont élevés et les pénuries se succèdent, les 6 pays de la communauté européenne de l'époque décident de créer la politique agricole commune. 50 ans plus tard, la PAC montre ses failles, les limites de son modèle basé sur l'agriculture industrielle et la perversité de ses aides financières qui donnent lieu à de nombreux abus comme des détournements par la mafia en Sicile, dans le sud de l'Italie. Un reportage d'Igor Strauss que vous découvrirez tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
C'était le 12 décembre 2015 à Paris. 195 pays sont parvenus à un accord pour limiter le réchauffement du climat de notre planète en dessous de 2 degrés, le seuil au-delà duquel il sera difficile de vivre en harmonie à plusieurs milliards sur notre petite planète. Un accord salué par tous, notamment pour son ambition et sa portée symbolique. Encore faut-il maintenant le traduire en actes. Et c'est urgent, puisque, comme l'a précisé récemment un expert de la NASA, 2016 s'annonce comme l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1880. Et c'est le Maroc qui accueillera en novembre prochain la 22e conférence des Nations Unies sur le climat. Bonjour Hakima El Haïté.
Bonjour.
Vous êtes la ministre marocaine de l'Environnement et vous avez la charge de mobiliser l'ensemble des acteurs au niveau national et international, puisque vous êtes l'une des championnes sur le climat avec Laurence Toubiana, l'ambassadrice française. C'est un vrai défi de mobiliser tout le monde.
Effectivement, surtout que, comme vous l'avez entendu et vous l'avez vous-même dit, l'accord de Paris a créé beaucoup d'attentes. C'était un accord historique, c'était un accord qui, pour la première fois, a donné une symbolique extrêmement grande. C'est un accord qui a consolidé la solidarité à travers le monde. Imaginez-vous 195 parties qui se sont mises d'accord pour la première fois dans l'histoire sur le passage de la confrontation du Nord et du Sud à la coopération entre le Nord et le Sud, sur le passage du désespoir de ne pas avoir un accord, un passage de l'espoir de réagir et d'agir. Et donc c'était un moment intense, l'esprit de Paris reste encore très présent. Et donc autant Paris était un succès, un grand succès, autant les attentes des peuples qui souffrent à cause des changements climatiques sont grandes. Et donc aujourd'hui, nous allons nous rendre à Marrakech en devant avoir des réponses pour tous ces peuples et pour toutes ces parties qui souffrent des changements climatiques. Et ça, j'aimerais bien les rappeler à l'auditoire. Il y a 1 milliard 200 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie propre et qui ont des répercussions de santé extrêmement graves à cause du chauffage au bois et à la tourbe. Il y a plus de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Des millions de terres dégradées, 500 millions de terres dégradées qui menacent la sécurité alimentaire. Il y a 800 millions de personnes qui ont faim à travers le monde. Il y a une migration intense et qui s'intensifie à cause des changements climatiques. Une surélévation des niveaux de mer qui risque de faire disparaître les États insulaires qui ont crié et qui ont élevé leur voix lors de la COP21 pour qu'on aille vers moins de 2 degrés, aller vers 1,5 degré. Et donc, c'est l'agenda du climat a été clairement défini comme un agenda de développement humain, de protection des droits humains, comme un agenda de paix. Donc les attentes à Marrakech sont énormes et il est important que la communauté internationale vienne avec des réponses et comme on dit pour les enfants, chose promise, chose due, et c'est à Marrakech.
Alors c'est vrai que les attentes sont très fortes du côté des pays africains notamment. C'est Nina Faux, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes président du groupe Afrique dans ces négociations internationales sur le climat, preuve que l'Afrique parle d'une seule voix, faut-il le rappeler, dans ces négociations. Quelles sont les attentes concrètes justement des pays africains à 6 mois après l'accord de Paris et dans la perspective de Marrakech?
Les attentes des pays africains sont claires. 5 points. Le premier, c'est une mise en œuvre équilibrée de l'accord de Paris, parce qu'il faut savoir qu'à la différence des autres accords, notamment du protocole de Kyoto, le périmètre de couverture de l'accord touche non seulement à la réduction des émissions des gaz à effet de serre, mais à l'adaptation, par exemple, aux impacts du changement climatique, les questions de financement, les questions de renforcement de capacités et de technologies. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce que nous avons appelé l'agenda de l'action, c'est-à-dire renforcer l'action climatique d'ici à 2020. Il faut savoir qu'à Paris, plus de 70 coalitions couvrant 12 secteurs thématiques, c'est-à-dire les transports, l'énergie, l'agriculture, tous ces secteurs en fait sur lesquels repose l'économie mondiale, des coalitions se sont formées, des coalitions entre secteurs privés, acteurs non étatiques, collectivités, plus de 10 000 initiatives individuelles. Quatrièmement, le financement. Non seulement augmenter les volumes de financement, mais aussi simplifier l'accès au financement climatique. Et puis, dernier point, c'est le renforcement de capacité. Le renforcement de capacité dans l'intégration du changement climatique dans la planification du développement, renforcement de capacité pour élaborer des projets et des programmes, avoir accès au financement climat, renforcement de capacité pour mettre en place des cadres d'évaluation, des cadres de suivi de l'action climat.
Alors voilà un beau menu dressé. Parvenir à tout ça, évidemment, c'est l'idéal. Maintenant, si on rentre un peu dans le concret, vous parliez du 22 avril, hein, c'était une date importante depuis l'accord de Paris. Ça s'est passé à New York, à Kimalaité. Il y a eu 175 pays qui ont signé l'accord de Paris. Il y en a trois de plus depuis, je crois. Hein, on est à 178. Maintenant, combien l'ont ratifié? Parce que c'est ça le sujet. On peut signer l'accord, après, il faut que chaque pays l'adopte.
Je vais vous étonner. Hein. On peut faire des accords, on peut les signer, on peut tous les ratifier. C'est magique, c'est magnifique. La ratification, pour moi, signifie une chose. C'est un signal politique très fort de la communauté internationale sur le respect de ses engagements. Parce qu'il y a eu un engagement de la communauté internationale. Au fait, on parle de quoi? On parle de deux choses. Un, faire en sorte que les pays développés diminuent les gaz à effet de serre, leurs émissions. Et ils s'y sont engagés à travers leurs contributions, les fameuses NDC. Donc il y a des contributions de pays qui s'engagent à diminuer les émissions. Et comment ils peuvent diminuer les émissions? Ils s'engagent à transformer leur système de production, leur système industriel et à rentrer et à définir leur mix énergétique et à passer à la transition énergétique, parce que vous comprenez bien que les émissions ont une origine, c'est la combustion des énergies fossiles.
80% des émissions mondiales aujourd'hui proviennent de la combustion des énergies fossiles.
Et ça, c'est la première manière. Or, les contributions ne vont être mises en œuvre qu'à partir de 2020. Et si on attend jusqu'à 2020, il y a un gap des émissions de 14 gigatonnes. Et donc, il va falloir, si on veut atteindre cet objectif, aller en 2020 en ayant déjà travaillé. On ne va pas rester les mains croisées. Parce que avant, quand on parlait du développement durable, on disait pour les générations futures. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de générations futures. Il s'agit de maintenant, parce qu'il y a des peuples qui souffrent maintenant.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'en gros, ratifier, c'est bien, mais il faut agir nationalement sur le terrain. Donc, il y a à peu près une vingtaine de pays qui ont ratifié aujourd'hui.
Voilà, il y a une vingtaine. Je pense qu'il y a une volonté de ratification et j'espère que ce message politique dont on parle, il sera annoncé lors de la COP22 et donc ça témoignera de l'engagement des pays développés et notamment industrialisés, parce qu'il n'y a pas que les pays développés. La Chine, on aimerait que la Chine vienne aussi à Marrakech en ayant ratifié.
Oui, parce que le World Resources Institute a lancé un outil très intéressant de simulation qui permet de calculer les émissions couvertes en fonction des pays sélectionnés, justement. Alors actuellement, donc, la vingtaine de pays qui ont ratifié, ça fait que 0,20% des émissions mondiales.
C'est les pays les plus vulnérables qui ont ratifié.
Oui. Bon, je pense que la question de ratification, comme l'indiquait Madame la Ministre, c'est aussi une question de volonté politique, de signal politique.
Mais on attend quand même la Chine, les États-Unis, l'Europe,
le président Obama, Russie. Et le président Xi de Chine se sont engagés à ratifier cette année. Donc ça, c'est certain. Également, la Norvège, le Canada se sont engagés à ratifier cette année. Sur les 17 pays qui ont ratifié, 3 sont africains, notamment Maurice, les Seychelles et la Somalie.
Justement, si on parle des pays africains, le Nigeria n'était pas le 22 avril à New York, l'Arabie Saoudite.
La question est très simple pour le Nigeria, si je peux me permettre. Le Nigeria va ratifier. le Nigeria va ratifier, ils se sont engagés à le faire, ils vont signer et ratifier le même jour. Donc, ça sera fait pour cette année, c'est, voilà.
Donc, il n'y a pas de réticence.
Laissez-moi vous annoncer une très bonne nouvelle. Parce que nous avons tous été surpris à Berlin par l'annonce de l'Arabie Saoudite qui, elle, a annoncé sa transition énergétique. Et donc, je pense que nous avons gagné un pays et un symbole du Golfe qui...
Alors, ça se passe comment, la transition énergétique pour l'Arabie Saoudite?
Par exemple l'Arabie Saoudite qui aujourd'hui a... Elle n'a pas de mix énergétique aujourd'hui, c'est 100% fossile. L'Arabie Saoudite s'est engagée à au moins installer 10 gigawatts d'énergie renouvelable.
Ça représente quoi, 10 gigawatts?
Ça représente à peu près 5% de leur
du mix.
Du mix, mais c'est 10% là pour nous, c'est 10% par c'est 10 gigawatts, c'est ce que l'Afrique veut installer de maintenant à 2020, mais beaucoup plus. Le signal politique est fondamental. Il y a peut-être à peine 2 ans, 3 ans.
Non, à Paris. Il n'était pas question qu'un ministre du pétrole vienne nous dire « J'ai une stratégie de long terme, je sais que le fossile n'est pas pérenne et donc je lance la transition énergétique et je suis avec vous. » Et c'était magique. Mais comme je vous disais, le plus important, c'est ratifier, c'est extrêmement important, mettre en place des stratégies de long terme qui vont donner une visibilité pour le secteur privé et pour la portée qu'on veut donner à l'accord en 2050, c'est magnifique. Encore faut-il développer des plans d'action, des plans d'investissement pour engager la transition.
Oui, parce que Akima Elaïté, vous avez découvert ces négociations internationales en tant que consultante. Vous avez dit d'ailleurs, au début, vous êtes dit jamais j'y retournerai, j'y crois pas du tout. Ils sont fous là-dedans, ils parlent un vocabulaire, on comprend rien, ils discutent pendant des heures et tout ça. Et
donc puis, vous m'avez bien suivi.
Voilà, et puis depuis 3 ans, vous êtes ministre, depuis la conférence de Varsovie, vous êtes donc impliquée en tant que partie prenante, comme on dit.
Écoutez, en tant que consultante, j'avais pas le droit à la parole quand j'allais à ces réunions et j'ai trouvé qu'ils étaient fous et qu'ils discutaient pas avec les bonnes personnes. Et d'ailleurs, quand j'ai eu l'occasion de le dire en tant que ministre, la première fois que j'ai intervenu dans la salle, il y avait Monsieur Ban Ki-moon dans la salle, j'ai pris la parole en lui disant, Monsieur Ban Ki-moon, vous pouvez négocier comme vous voulez, pendant des années, vous allez encore négocier pendant 20 ans. Si vous voulez que ça bouge, c'est au niveau des territoires et c'est avec le secteur privé qu'il faut discuter, c'est là que ça se passe. Et par magie, ça s'est passé comme ça depuis 3 ans.
C'est-à-dire que depuis la dynamique de l'accord de Paris, vous diriez que les négociations se sont ouvertes à d'autres acteurs, notamment au secteur privé, à la société civile.
Pas sur les territoires, notamment dans les villes. 80% de l'action climatique et des décisions climatiques se passent dans les territoires. Elle est portée par les territoires et par le secteur privé. Et donc, si on veut que ça bouge, il faut donner la voix. Et il faut que ces secteurs soient impliqués.
Oui, mais c'est vrai que c'est difficile. Moi, par exemple, journaliste environnement à RFI au quotidien, je passe mon temps à voir des gens qui me disent « Oui, ta COP21, là, tu vois bien, il y a un nouveau gisement qui a été découvert dans tel pays, il y a tel pays qui s'engage à exploiter telle ressource fossile, etc. Ouais. » Donc c'est difficile de convaincre que cette dynamique est vraiment en marche.
C'est peut-être difficile de convaincre de manière individuelle, mais quand on regarde les chiffres, par exemple, d'investissement sur les énergies renouvelables, les chiffres ne mentent pas. Nous sommes à plus de 285 milliards, je crois, pour cette
56%
année.
56% des investissements.
C'est quand même.
Il y a plus d'investissements dans le renouvelable que dans le fossile. Aujourd'hui.
Exactement. Donc ce sont des faits. Nous venons de parler de la position de l'Arabie Saoudite. Ce sont des faits. Je pense que au-delà de la question de la ratification, la ministre, elle a été, en a parlé. Il s'agit maintenant de transformer ces contributions, cette vision, en programme, en plan d'investissement sur le terrain. Et c'est à cela que s'attelle le groupe Afrique, des nouvelles très concrètes. Par exemple, rien que la semaine dernière, le Fonds vert pour le climat met à la disposition de l'ensemble des pays en développement 3 millions de dollars. 3 millions de dollars pour préparer des plans d'investissement, des fonds verts très concrets qui se mettent en place.
Le fonds vert a suscité pas mal d'inquiétudes. Ça a été un peu long à se mettre en place, à démarrer. Aujourd'hui, ils ont annoncé pour cette année qu'il y aurait 2,5 milliards d'investissements. Oui. Alors, comment ça marche?
C'était annoncé depuis longtemps, les 2,5 milliards. Maintenant, leur argument, c'était qu'il n'y avait pas suffisamment de projets bancables, étant donné la faiblesse des capacités des pays à préparer des projets d'investissement bancables.
Alors, justement, pour l'Afrique, ça donne quel type de projets qui seront financés?
Eh ben, l'énergie, je te laisse répondre.
Les projets vont dépendre des contributions des pays, que ce soit des projets pour lutter contre la sécheresse, que ce soit des projets pour accroître le rendement de l'agriculture dans un contexte de changement climatique. Les énergies renouvelables, c'est certain. Les programmes d'infrastructures hydrométéo. Nous avons donc 2,5 milliards d'objectifs pour cette année. Le pipeline est déjà beaucoup plus important que cela. C'est certain. Le fonds a mis du temps pour atteindre une vitesse de croisière parce qu'il fallait mettre un certain nombre de standards, de normes en termes de gestion fiduciaire, en termes de normes environnementales et climatiques et même l'intégration du genre dans la politique d'investissement du fonds. Nous avons passé cette étape-là. Des mécanismes se mettent en place pour la préparation. Il y a des fonds maintenant qui existent pour préparer les entités nationales, les pays, $1 million, une facilité pour la préparation de projets. Vous pouvez demander jusqu'à 1,5 million de dons pour préparer votre projet. J'ai parlé de $3 million. Donc nous sommes en train d'aller très vite à mettre en place les mécanismes, les subventions au niveau du fonds vert. Un dialogue structuré s'organise au mois de septembre entre les 54 entités africaines, les entités nationales, les entités accréditées, c'est-à-dire les entités qui sont habilitées à recevoir des fonds, des financements du fonds climat, pour justement réfléchir à des projets, à des programmes. Donc les choses vont extrêmement vite, choses vont extrêmement vite cette année pour nous rassurer qu'à Marrakech, effectivement, il y a de l'action.
J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit qui est extrêmement important quand on vous dit qu'à chaque fois on découvre un gisement, etc. Il est très important de comprendre qu'on est dans, quand on parle de ces aspects du climat, on touche à l'agenda économique. On parle d'économie, on parle de pouvoir économique et donc de pouvoir géostratégique des pays. Et donc, il n'est pas aisé de demander à un pays qui a toujours utilisé des énergies fossiles d'arrêter toute son économie et de switcher vers une économie renouvelable. Donc, il s'agit de construire un processus. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Il est important d'asseoir une cohérence au niveau des politiques mondial, c'est-à-dire que il faut qu'on revoie au niveau des institutions financières l'architecture des financements. Il est plus normal aujourd'hui de financer le fossile comme on finance les renouvelables, avec les mêmes taux d'intérêt. Il n'est plus normal d'avoir la même fiscalité pour le fossile que pour le renouvelable. Et donc, il faut revoir les politiques mondiales au niveau de la finance. Il faut revoir également les politiques mondiales au niveau des politiques publiques, parce qu'aujourd'hui, il faut intégrer le climat dans les politiques publiques. Ça se fait au niveau de l'OCDE, de l'Organisation mondiale du commerce,
on aura
du
l'occasion
G20,
d'en reparler,
etc.
Je vais donner juste un petit exemple.
Ce sera le mot de la fin.
Juste un petit exemple, justement, pour la cohérence du cadre macro mondial. Le Fonds monétaire international, quand il conduit à tous les 6 mois, pour la majorité des pays africains, par exemple, un exercice de soutenabilité de la dette, il n'y a pas de discrimination, par exemple, entre les investissements dits verts et les investissements dits fossiles, par exemple dans le secteur de l'énergie.
Ce qui n'est pas normal.
Donc on n'intègre pas la dimension climat dans le prix. Donc un État aujourd'hui, il pourrait lui coûter plus cher en termes de ratio dette sur PIB, de s'endetter justement pour réaliser des infrastructures, des investissements dans les énergies fossiles que sur les énergies vertes.
Qu'est-ce qui vous ferait acheter une voiture électrique, vous, madame? Si demain on vous dit vous ne payez pas de taxes et vous ne payez pas de parking et
il faut des incitations.
Bien entendu. Alors on a bien compris les règles.
On a bien compris, on l'entend en tout cas à travers votre dynamisme qu'il y a eu beaucoup de travail de fait depuis l'accord de Paris. Il en reste encore beaucoup d'ici Marrakech au mois de novembre. On se verra d'ici là. Merci à tous les deux d'être passés dans ces pas du vent. Et quant aux auditeurs, restez avec nous. On se retrouve juste après le flash d'info. À tout de suite.